Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal. Bon. Et je dois vous dire que je l'ai vue, la lune.
Vous l'avez
vue
toute rouge.
Oui.
Elle est visible effectivement partout en France. Oui. En ce moment, pour les lève-tôt, les couches-tard, s'il n'y a pas trop de nuages, ce qui est le cas en ce moment, au-dessus de nos têtes à Paris. Alors Jacques, on évoque avec vous les gilets jaunes dans votre journal des idées. Une revanche des invisibles, dit-on souvent. Et pourtant, les sciences sociales s'intéressent depuis longtemps à la désagrégation des couches populaires et à ce processus d'effacement.
Mais oui Clara, et c'est à se demander si ce ne sont pas plutôt ces travaux qui, en temps normal, restent invisibles aux yeux de la majorité des grands médias et des politiques. Dernier exemple en date, les enquêtes publiées sous le titre « Où va la France populaire ?» dans un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Duvoux et Cédric Lomba, écrit bien avant la crise des Gilets jaunes. Il éclaire pourtant un large pan de la réalité dévoilée au grand jour par ce mouvement. C'est ce que montrent les sociologues dans un entretien accordé au Figaro Vox. Ils évoquent des études de cas avec immersion très longue pour comprendre de l'intérieur les différents domaines de la vie des classes populaires et insiste sur les logiques de différenciation observées. Si elles ont en commun des revenus modestes, une position subalterne dans l'emploi et une certaine séparation culturelle vis-à-vis des autres groupes, les classes populaires connaissent une fragmentation qui participe à leur invisibilisation. Un processus enclenché de longue date et contre lequel les gilets jaunes opèrent un renversement indéniable, contrairement à l'époque où le monde ouvrier présentait une image unifiée, notamment à travers une culture commune et par le travail des organisations syndicales et partisanes. On rencontre peu aujourd'hui dans l'espace public de tentatives d'agrégation des intérêts de ces fractions de classe dans un discours commun. Les sociologues évoquent un chapitre de l'ouvrage, l'enquête de Carlotta Benvenu et David Gaborio sur les ouvriers de la logistique, un secteur qui représente aujourd'hui plus de 10% des ouvriers. Ceux-ci sont confrontés à de nouvelles contraintes, la quasi-absence de possibilités de carrière dans les entrepôts rend difficile l'identification à un métier et plus encore à un collectif de travail. Leurs parcours divers, certains provenant de secteurs industriels restructurés, d'autres ayant suivi des formations professionnelles spécialisées en logistique, augmentent la fragmentation de ce groupe qui peine à faire émerger une voie commune et à porter des revendications partagées. Les activités en entrepôts, trop pénibles pour être durables, structurent aujourd'hui la condition des classes populaires et leur trajectoire. Sociologie du travail, de la famille, des banlieues ou de la ruralité, les chercheurs sont depuis belle lurette sur le terrain de la désaffiliation et de l'insécurité sociale. Aujourd'hui, un géographe, Christophe Guilluy, a imposé en guise d'explication unique et sommaire à la fracture sociale la notion de France périphérique, notion ressassée à raison même de son ambiguïté et de son côté passe-partout. Les géographes travaillent volontiers avec Descartes. Après la victoire surprise de Trump et la défaite de Marine Le Pen, ils ont comparé les cartes des zones démunies et défavorisées et celles des bastions des candidats populistes et ils ont découvert d'importants recoupements, observe le politologue allemand Klaus Leggevi dans un article relayé par Courrier International. Les Trump, Le Pen et autres Gauland, le co-dirigeant de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, l'emporte là où les entreprises sont parties, les médecins ont fermé leur cabinet, les connexions ferroviaires ne sont plus assurées, les restaurants et les centres d'animation pour la jeunesse ont mis la clé sous la porte. Mais le tableau change quand on le contemple en contre-plongée. Les partisans de Trump proviennent principalement des classes moyennes. Parmi les rebelles, on trouve moins de représentants des classes ouvrières précaires que de gens ayant des revenus légèrement supérieurs à la moyenne et dont les angoisses existentielles ont d'autres causes qu'une paupérisation exacerbée. Par ailleurs, ajoute-t-il à propos de l'Allemagne, dans les régions démunies, à côté de communes qui échouent désespérément en dépit des aides de l'État, on en trouve qui prospèrent, même sans subvention. Là, il y a de nouveau des crèches, des commerces et des transports en commun, et ce notamment grâce à l'arrivée de familles de réfugiés qui ont besoin de ces services ou qui y travaillent, mais aussi et surtout grâce à l'engagement de bénévoles, de maires, d'administrateurs et d'enseignants débordants d'idées qui s'opposent à la prétendue dictature de la géographie. Le corrélat de l'invisibilité supposée des classes populaires, c'est leur accès problématique à la parole publique. Dans Marianne, Philippe-Joseph Salazar, titulaire de la chaire de rhétorique à la faculté de droit du Cap en Afrique du Sud, estime que le grand débat national est en réalité un sous-produit du dialogue social qui lui-même est une technique de management et de résolution interne des conflits. Et il met en garde les gilets jaunes, leur pouvoir est justement dans une parole différente.